Bonjour à tous. Comme un mardi dans la deuxième partie de la Grande Table, réflexion post-primaire à droite. Dans la compétition, c'est lui qui s'est finalement imposé. François Fillon consacré avec plus de 66% des suffrages. Quelle direction la droite dite rassemblée prend-elle pour 2017? Notre invité, l'historien des idées et auteur d'une histoire intellectuelle des droites, François Huguenin, sera avec nous à partir de 12h55. Mais d'abord, il s'est construit un univers fait de nature et de songes. Le réalisateur et scénariste Jean-Pedro Rodriguez est à l'affiche de L'Ornithologue. Le film sera en salle demain et il est également au Centre Pompidou à Paris pour une rétrospective complète de ses films dans le cadre du Festival d'automne. Il est en tout cas, et ça c'est sûr, notre invité aujourd'hui autour de la Grande Table jusqu'à 12h30. La Grande Table à écouter maintenant sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr. Bienvenue à tous.
La Grande Table, Olivia Gesbert.
Caged. Did you hear that?
Tiento!
Every night same noise. Three nights the same. We're very afraid.
那灵魂来了，我们都怕魔鬼。 就是魔鬼帮我们带领圣雅各之路的.
The devil is here.
Come on. There's not such thing as the devil. Or God.
Des arbres, de l'eau, des cris, des esprits, mais ni diable, ni dieu. Entre réalisme contemplatif et fable fantastique, L'Ornithologue arrive sur grand écran demain. Son réalisateur, le cadreur portugais Jean-Pedro Rodriguez, est notre invité. Il a toujours placé la nature et le désir charnel au cœur de ses films. Cinéaste des espaces infinis et intimes, il explore l'imaginaire collectif et nous balade dans le sien. Jean-Pedro Rodriguez, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et vous Merci. Parlez un français parfait. Il paraît que vous avez appris le français en lisant Proust. Ça existe. Vous avez pensé, c'est pas le plus simple.
Je l'ai appris au lycée et après, bon, j'aime bien lire en langue originale. Donc,
pour ça, il faut
j'ai fait un effort.
Et vos auteurs, vos écrivains français favoris?
Genet. Bon, ça a beaucoup commencé par là.
Jean Genet. Pourquoi lui?
Parce que c'est un univers qui m'est proche. Qui m'est proche, qui me parle. Et il y a une sauvagerie dans ce qu'il écrit, et qui est une sauvagerie que j'aurais aimé qu'elle reste et qu'elle serait encore plus présente dans nos jours. Et je pense qu'on a tout est un peu trop simple maintenant. Il y a une sauvagerie partout. Et aussi politique, et je pense on accepte trop tout. Et je pense que c'est un exemple aussi, quelqu'un comme Genet, qui a aussi fait des films. Un film qui est très très beau.
C'est-à-dire qu'il y a sauvagerie et sauvagerie à vous entendre. Il y a une sauvagerie qui peut approcher la solitude et qui peut vous paraître positive, et une sauvagerie proche de la violence du monde, peut-être politique notamment, que vous évoquez, qui là vous repousse, vous révulse d'une certaine manière.
Non, je pense que c'est plutôt une sauvagerie dans l'écriture, dans les mots. Et avoir pas peur des mots, avoir pas peur de ce qu'on dit. Je pense que moi, quand je fais des films, j'essaye d'être honnête avec moi-même et j'essaye de dire... Chaque film, c'est un peu moi à chaque moment de ma vie. Et j'aurais pas fait ce film, par exemple, quand j'ai commencé à faire des films. Ce film est toujours c'est aussi comme... C'est un apprentissage aussi. C'est faire des films, c'est apprendre aussi. Et j'ai appris à regarder autour de moi. Et chaque film, c'est un chemin que j'essaie de. C'est pas que j'essaie de construire, parce que j'essaie pas de construire quelque chose. Mais j'ai été emmené par mes films parce que c'est la façon dont que j'ai de parler aux autres, peut-être.
Et justement, Jean-Pedro Rodriguez, tous vos films, dont Au Fantasma, Au d'été, Mourir comme un homme, Matin de la Saint-Antoine, Le corps du roi, sont actuellement projetés dans le cadre de la rétrospective qui vous est consacrée au Centre Pompidou. Elle a déjà commencé, ce sera jusqu'au 2 janvier. Déjà une rétrospective pour un cinéaste comme vous. Qu'est-ce que ça veut dire de vous, de votre parcours cinématographique? Qu'est-ce que vous avez le sentiment maintenant? Vous dites que vos films parlent de vous, que c'est une réflexion, une recherche. Est-ce que vous avez le sentiment maintenant d'être un cinéaste accompli? C'est la fin du chemin que vous évoquez ou vous vous sentez encore à mi-parcours dans cette connaissance de vous-même et des autres que vous accomplissez à travers vos films?
J'espère que ça soit mi-chemin, je sais pas. Je viens du Portugal et au Portugal, il y a un réalisateur qui est mort. Je me souviens même plus quand est-ce que Manuel d'Oliveira est mort, mais l'année dernière, avec 106 ans, ou 105 ans. Alors.
J'aurais dit 102, 103, mais on va vérifier.
Ouais, non, je pense que c'est 106. Donc, j'attends pas à arriver à cet âge-là, mais quand même, j'espère encore faire beaucoup de films. Mais c'est vrai que c'est un peu regarder un peu sur sa tombe, même si je me sens très honoré d'être au Pompidou et qu'il y a eu cette rétrospective, parce que moi je regarde pas non plus mes films, je regarde pas en arrière, j'essaie de regarder en avant, j'essaie d'avancer plutôt et pas que regarder.
Et c'est pas une rétrospective qui vous enterre, en somme. Elle vous coupe pas de vos envies et de la créativité à venir.
Oui, ça me fait penser aussi aux autres films parce que je les présente, les films précédents, et je les présente dans plusieurs séances. Donc, il faut, je les regarde pas. Normalement, je regarde pas mes films. Je les oublie. J'essaie de les oublier. Chaque film, c'est pour ça que ils sont tous, il y a un morceau de ma vie qui est dans chaque film, et je pense que c'est impossible de faire n'importe quelle discipline artistique maintenant sans parler de soi. Donc c'est pas qu'il soit autobiographique, mais quand même il parle de moi. Mais je les vois aussi comme je les regarde et ça me... Je sais pas très bien comment. Bon, c'est un moment, et après, maintenant, je veux que avancer.
Alors justement, puisque tous vos films parlent de vous, L'Ornithologue, qui est en salle demain en France, L'Ornithologue, c'est vous?
Oui, mais c'est aussi pour l'ami, c'est aussi. Mais moi, je voulais être ornithologue quand j'étais enfant.
Justement, vous avez fait des études de biologie.
Oui.
Vous rêviez d'être ornithologue, donc de partir à la recherche d'animaux plus ou moins rares, de les capter dans votre objectif, dans votre œil, dans votre regard. Pourquoi? D'où est venu cet intérêt ou cette passion soudaine?
Je pense que c'est quelque chose qu'on fait seul. Et j'étais un enfant un peu seul peut-être, mais ça n'a rien de péjoratif là dans j'aimais être seul, et pour aller dans la campagne observer les oiseaux, on ne peut pas aller en grand groupe parce que les oiseaux ont peur des hommes, donc il faut aller seul ou aller en petit groupe ou aller... mais moi j'allais seul. Mes parents... On a encore une maison dans la campagne, d'où mon père est originaire, un peu au nord de Lisbonne. Et on passait les week-ends, peut-être tous les week-ends. Moi, j'aimais pas la ville quand j'étais jeune. Et je voulais faire vraiment cataloguer tous les oiseaux qui passaient par cet endroit, avec déjà une pensée scientifique un peu, je dirais, scientifique d'enfant. C'était très simple. Mais quand je regarde mes carnets de notes, parce que je les ai encore, je savais tous les noms des oiseaux en latin. Je sais encore quelques-uns. Et ce film m'a aussi replongé là. Mais j'étais emmené vers les études de biologie. C'était ce qui est mon parcours normal. Et j'ai senti que j'étais un peu... j'ai été dévié par le cinéma parce que c'était un rapport un peu obsessionnel que j'avais à observer les oiseaux, aux oiseaux, à la nature. Et j'ai commencé, quand j'avais 15 ans, à aller beaucoup au cinéma. D'une façon aussi un peu obsessionnelle. J'ai la tendance de faire les choses...
De manière un peu obsessionnelle.
Ouais. Et si vous pensez, il y a beaucoup de choses qui ressemblent. Je regardais la nature à travers des jumelles. Et le cinéma, je regarde, ou je refaçonne ce qui est autour de moi à travers une caméra. Et donc, il y a pas mal de choses qui se ressemblent, même si... Après, ce qui m'intéresse, c'est plutôt un chemin vers la fiction et vers le récit, et comment est-ce qu'on construit un récit. Mais bon, je me suis un peu enfermé dans les salles de cinéma, aussi pour apprendre, pour le plaisir, d'abord. Et j'ai appris beaucoup en regardant d'autres films.
Oui, vous le dites d'ailleurs, on apprend à faire du cinéma en regardant des films, mais il faut aussi savoir les oublier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas crouler sous les références et il ne faut pas chercher en faisant un film à réécrire finalement l'histoire du cinéma en ne faisant que citer les films qui vous ont marqué. C'est aussi cette idée-là, Pedro Rodriguez, Jean-Pedro Rodriguez.
Oui, moi je n'aime pas du tout le cinéma de la citation, où on voit... Moi j'essaie d'oublier, j'essaie. Elles sont là, les références. Mais ce n'est pas que le cinéma, c'est un peu tout. C'est même l'expérience de vie. C'est la peinture, c'est beaucoup de choses. Et ce sont des choses qui après réapparaissent. Des fois, c'est un peu malgré moi. Mais moi, j'essaye pas de les mettre d'une forme référentielle dans les films. J'essaye qu'elles soient naturelles. J'essaye qu'elles font partie du corps du film, qu'elles soient invisibles, ces références.
L'ornithologue Jean-Pedro Rodriguez, le film s'ouvre sur une citation de Saint-Antoine de Lisbonne. Il y a des figures comme ça de l'histoire, de l'imaginaire portugais qui sont aussi très présentes dans votre film. Qui s'approche de lui sentira sa chaleur et son cœur sera élevé très haut. Votre héros, Fernando, est donc ornithologue. Il part à la recherche des cigognes noires, cet oiseau rare, très rare, beaucoup plus rare que sa cousine blanche, solitaire et sauvage comme vous l'évoquiez. Difficile à attraper. On voit ce Fernando évoluer dans une nature plutôt complice hein, au départ. Il est parfois interrompu et ramené au monde réel par son téléphone portable. Il va ensuite prendre son kayak, descendre la rivière et puis tomber dans des rapides. Et le film, qui au départ est très contemplatif, très en prise avec la nature et cette observation, va basculer vers un autre imaginaire, vers la fable quelque part. Vous avez dans ce film, comme dans beaucoup d'autres, avec la poésie du cinéma que vous pratiquez, vous racontez aussi des évocations de l'histoire du Portugal, des figures qui ont marqué ce petit pays finalement assez méconnu de l'histoire de l'Europe, ses conquêtes, ses rêves de grandeur. Tout ça est toujours très présent dans l'imaginaire collectif, ces mythes, ces figures portugaises que vous évoquez, dont Saint-Antoine dont on vient de parler.
Saint-Antoine, c'est une figure qui est très présente, oui, au Portugal. À Lisbonne, par exemple, c'est le saint patron de Lisbonne. Et il y a une fête le 13 juin. C'est une fête au départ religieuse, mais finalement, elle est assez profane, je dirais. Les gens sortent le soir et... Je me suis approché de la figure de Saint-Antoine une première fois dans un film qui s'appelle Ma tante la Saint-Antoine, qui est précisément sur le retour chez eux d'un groupe de gens qui rentrent chez eux après faire la fête, dans des états plus ou moins alcoolisés ou plus ou moins zombifiés, je dirais. Parce que c'est venu de l'expérience. Une fois, je suis sorti et je suis rentré et les gens... Et j'avais pas trop bu, j'étais assez conscient. Et autour de moi, dans le métro, les gens étaient par terre, vomissaient. Et ça m'a fait penser comme un film, une espèce de film d'horreur bienveillant. Une espèce de danse de zombies. Et c'est ça qui, après, quand j'étais au Frénois, je donnais des cours et au Frénois, il y a cette chose merveilleuse qu'il faut faire un film. Donne de l'argent pour faire un film. Et j'ai eu cette idée de reprendre ces images que j'avais vues, que j'avais témoignées, et faire un film avec cette idée que ça pourrait donner un film. Et c'est devenu un film très, d'une certaine façon, très chorégraphique. Et c'est le film qui est aussi à l'origine de l'installation qui est
actuellement au Centre Pompidou, hein, ouais, Santo Antonio.
Santo Antonio. Et qui, et dans cette installation, c'est dans une boîte blanche, dans une, on a construit un, parce que c'est, moi je l'ai fait avec Jean-Ruy Guerre-Damat, qui est mon directeur artistique, et qui, lui aussi, il a fait des dessins qui sont à l'extérieur de cette boîte. Et l'idée, c'est de reconstruire une place, c'est de reconstruire un espace architectural qui est vraiment la place d'où le métro arrive et la place où je sors quand je rentre chez moi. Et cette idée que le cinéma, c'est aussi de l'architecture et c'est aussi de la reconstruction d'un espace. C'était mon première approche à cette figure de Saint-Antoine, qui est une figure qui, pendant la dictature qu'on a eue jusqu'à 1974 au Portugal, la dictature de Salazar, était un des symboles, la religion était un des symboles, était un des piliers de la dictature. Et Saint-Antoine était comme symbole, il nous a été vendu, entre guillemets, comme le sang de la famille, le sang du mariage, et qui n'est pas vraiment le cas si on repense aux origines comme un saint franciscain qui a tout abandonné pour aller vers les autres, pour aller vers la nature, la pauvreté. Et moi, j'ai voulu retourner à une image primitive, même si ce n'est pas vraiment un vrai portrait de Saint-Antoine. C'est une vision très personnelle de Saint-Antoine, finalement, le film. Mais c'est quand même quelque chose que je pense qui est plus proche d'une vision de l'époque. Et l'époque, c'est le Moyen-Âge.
Le réalisateur Jean-Pedro Rodriguez est notre invité pour L'Ornithologue, son film en salle demain en France, et puis aussi pour cette vaste rétrospective de ses films à voir au Centre Pompidou, où il présente aussi une installation Santo Antonio qui évoque la figure du saint patron dont vous nous parliez à l'instant. C'est là encore à voir à Pompidou. France Culture, il est midi 19. Prince, Moonbeam Level, un titre inédit du roi de la pop qu'il avait enregistré dans les années 80 en 82, mais qui n'était jamais sorti et qu'on retrouve là dans un album compile qui vient de paraître vendredi. L'album s'appelle Forever. Vous écoutez France Culture, il est midi 22.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
À vous entendre, Jean-Pedro Rodriguez, on imagine que comme votre héros, vous avez vous aussi des désirs assez entêtants dans la vie. Alors peut-être n'est-ce pas aujourd'hui trouver la fameuse cigogne noire derrière laquelle court votre ornithologue. Quels sont-ils vos désirs à vous? Ceux qui vous obsèdent?
C'est une question difficile.
C'est qu'il y en a beaucoup.
Ou pas. Moi, je sens que je suis mené un peu par... mon parcours et faire des films, faire d'autres films. C'est toujours faire un film, c'est toujours faire comme un deuil de chaque film. Là, il est encore très vivant, cet ornithologue. Il est très vivant en moi encore. Mais je sens toujours qu'il faut essayer de l'oublier pour passer à quelque chose d'autre. Je ne suis pas du genre d'avoir beaucoup de films dans des tiroirs, beaucoup de scénarios dans des tiroirs. Pour moi, c'est toujours... j'ai toujours besoin de cette... c'est comme je regarde l'abîme d'une certaine façon. Et de ce vide naît un autre film.
C'est-à-dire que tous vos désirs sont des désirs de cinéma, aujourd'hui encore?
Non.
Non,
mais ma vie se confond. Moi, je pense que c'est pas possible de faire du cinéma comme on fait sérieusement au Portugal sans que ça soit vraiment imprégné de la vie, de sa vie, de sa propre vie. Moi, je distingue pas. C'est ce que je fais. Je voyage pour les films. Je fais tout en pensant aux films. Les idées viennent de la vie aussi. Mes idées de cinéma. Viennent des images qui je vois, que je témoigne, que donc ça c'est comme le sang et la chair ensemble.
Et c'est tellement lié que vous êtes souvent d'ailleurs dans vos propres films, vous êtes aussi dans l'ornithologue. Vous auriez pu être cet ornithologue, vous avez choisi un acteur français pour incarner ce rôle, Paul Amy, mais vous l'avez aussi doublé. Et pourtant, il paraît qu'il avait appris le portugais. Vous l'avez doublé avec votre propre voix, l'acteur principal du film. Pourquoi ?
Paul, il a appris le portugais et il a vraiment fait un très grand effort. Moi, Paul, il est moitié français, moitié américain. Et je pense qu'il a quelque chose de l'instinct des acteurs américains. Il a appris le portugais, mais il ne parlait pas suffisamment bien pour que le Saint-Antoine était portugais. Il fallait qu'il y ait une voix sans accent. Et aussi, mais c'est peut-être trop révélé, moi, je me mets en scène aussi dans le film. Donc, c'est comme si son corps est déjà habité par ma voix et sa voix hante son corps hante ma voix d'une certaine façon. Je pense que c'est cette idée de hantise.
Dire que c'est un film de métamorphose, hein, de métamorphose, oui. Des corps aussi et des esprits peut-être pour expliquer.
Mes films, je pense qu'ils sont tous autour de la métamorphose et même ça, c'est un peu quelque chose que je dois regarder en arrière pour penser. Je fais pas exprès de, mais tous mes films, mais moi, j'aime les personnages qui changent, et là, il y a un changement radical. Il y a un changement de corps, d'une certaine façon. Il y a une transmutation qui est beaucoup plus radicale que dans mes autres films. Et donc, ça faisait vraiment du sens pour moi que ma voix soit là dès le début.
Et c'est pour ça que d'un film à l'autre aussi, vous changez d'acteur. On ne retrouve pas les mêmes castings. Vous n'avez pas un acteur fétiche, une sorte de double de cinéma qui vous incarnerait parfaitement dans vos films?
Mes films sont aussi très différents les uns des autres. Moi, j'ai cette obsession de ne pas refaire le même film. Mais en retournant encore à la voix, il y a des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ma voix, qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas la voix de Paul, qui pensent que ne sont pas... qui ne voit pas cette doublure, je dirais, qui pense que c'est sa voix.
Un mot de la musique dans le film, une musique parfois assez stridente. Il y a un instrument qui est présent au cœur du film. C'est une trompe de chasse qu'on entend dans le film.
La musique du film, c'est le violoncelle qui est joué par Séverine Ballon, qui est une très très grande musicienne que j'ai rencontrée il y a peu de temps et qui joue d'une façon toujours organique. Ça veut dire que c'est jamais du il n'y a jamais de la post-production, mais elle fait avec le violoncelle, et elle sort des sons qui atteignent, des fois c'est comme on atteint un degré de presque mystique et aussi d'inquiétude qu'elle arrive à sortir de son instrument, mais tout avec ses mains et avec... Tout est organique en elle.
Très charnel. Et là, on entend quelques notes d'une chanson qui signe le générique de fin de votre film, L'Ornithologue. Une chanson d'Antonio Variachoès, si je ne prononce pas trop mal. Racontez-nous juste l'histoire de cette chanson et surtout de son auteur, parce que le musicien, le chanteur homosexuel portugais, il est mort le jour de la Saint-Antoine. Il était peut-être aussi né le jour de la Saint-Antoine. Donc ça nous ramène à la symbolique du film que vous évoquez dans L'Ornithologue.
Même si j'ai choisi cette chanson, pas à cause de ça. C'est une chanson qui me hante et qui est en moi il y a beaucoup de temps. Et c'est une chanson... Un temps d'évolution, ils étaient très en avant-garde de son temps, je pourrais dire. Il était coiffeur d'abord et musicien après. Et il a fait une pop très... En même temps, très inventif et très populaire. Et cette chanson parle d'amour, mais parle aussi que pour être ensemble, il faut être seul. Et je pense que c'est quelque chose qui est très vrai en amour, si on parle d'amour. Et c'est une chanson qui m'émeut énormément. Et c'est une chanson que je la sens comme si elle était composée pour le film.
Et voilà comment on retrouve la solitude de départ. Merci beaucoup Jean-Pedro Rodriguez. Votre film L'Ornithologue sort en salle demain. Très beau film, très belle fable contemplative entre la nature et le désir. Merci mille fois.
Merci.
À vous.
Merci.